Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire derrière les murs, notre série de podcasts consacrée à la prison départementale de Loche. Aujourd'hui, nous plongeons dans une époque de contrastes violents, le 19e siècle français, du point de vue de la justice pénale des femmes. Imaginez une femme de 1830. Selon le code civil napoléonien de 1804, c'est une éternelle mineure. L'article 213 est sans appel. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Elle ne peut agir en justice sans autorisation, elle ne possède rien en propre et doit suivre son époux partout. Le 8 juin 1872, Victor Hugo fait le procès du Code civil dans une lettre adressée à Léon Richer, rédacteur en chef de L'Avenir des femmes et fondateur du féminisme d'après Simone de Beauvoir.
Le 8 juin 1872. Monsieur, je m'associe du fond du cœur à votre utile manifestation. Depuis 40 ans, je plaide la grande cause sociale à laquelle vous vous dévouez noblement. Il est douloureux de le dire. Dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle une esclave, elle l'appelle une mineure. Cette mineure, selon la loi, cette esclave, selon la réalité, c'est la femme. L'homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, dont l'équilibre importe à la conscience humaine. L'homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. De là un trouble profond. De là la servitude de la femme. Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyenne. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse.
Pourtant, dès qu'elle franchit la ligne rouge de la loi, cette mineure, comme dit Victor Hugo, devient soudainement une adulte responsable devant la justice pénale. C'est le grand paradoxe du siècle. La femme est trop faible pour voter ou gérer son argent, mais elle est assez forte pour monter sur l'échafaud. Cet épisode traitera de la prison au féminin. Comment vivent les femmes incarcérées à Loche? Et à travers de nombreuses sources et différents exemples, nous allons essayer de vous présenter ce que voulait dire être condamnée quand on est une femme au 19e et 20e siècle. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que cet épisode évoquera les infanticides et le crime conjugal. Écoutez-le dans les meilleures conditions. Pour comprendre la justice du 19e siècle, il faut d'abord comprendre comment les savants de l'époque voyaient les femmes. Nous sommes en plein essor de l'anthropologie criminelle. En Italie, un médecin célèbre, Cesare Lombroso, publie « La femme criminelle » en 1896. Pour lui, la femme est, par nature, moins portée au crime que l'homme, car elle est plus proche de l'embryon ou de l'animal inférieur. Mais, et c'est là que le piège se referme, si elle devient criminelle, elle est considérée comme une anomalie biologique. Lombroso développe la théorie de l'atavisme. La femme criminelle serait un retour vers une forme primitive, presque masculine. On l'accuse de se viriliser. On scrute son visage, ses mâchoires, ses oreilles, à la recherche de la beauté perdue ou, au contraire, de la laideur qui trahirait son crime. Ce n'est d'ailleurs pas rare de lire dans les journaux locaux des descriptions vraiment peu fâteuses des femmes accusées. En France, si le regard est tout aussi moralisateur, la femme est le pivot de la famille, le socle de la morale. Si elle chute, son crime est jugé plus grave que celui d'un homme, car elle trahit sa mission naturelle de douceur et de dévouement. Pour les experts de l'époque, une femme qui tue n'est pas seulement coupable, c'est une femme dénaturée, une hystérique ou une folle. Mais de quoi ces femmes étaient-elles réellement accusées? Les statistiques sont formelles, leur criminalité est domestique, elles se cachent dans les cuisines et dans les alcôves. Le crime le plus fréquent, c'est l'infanticide. Au XIXe siècle, une grossesse hors mariage est une mort sociale. Pour beaucoup de servantes ou d'ouvrières illettrées, tuer le nouveau-né est le seul moyen de garder son honneur et son emploi. Prenons l'exemple de Marie Deschamps, née en 1821 à Perrusson, à côté de Loche. Elle est incarcérée à la prison départementale de Loche en tant que prévenue d'infanticide sur le registre d'écrou 2Y106, sous le numéro 229, le 24 janvier 1855. Son nom apparaît ensuite sur le registre de la maison de correction, 2Y129, sous le numéro 335. Sur l'acte de décès de l'enfant auquel elle donne naissance, il est noté que les témoins déclarent et présentent un enfant sans vie, de sexe féminin. Nous a déclaré que la mère de l'enfant était Marie Deschamps, le père inconnu, demeurant à l'étang de cette commune et actuellement détenue à la maison d'arrêt comme accusée de prévention. Chose étrange, en marge de l'acte, on peut lire « décès d'un enfant mort-né ». Les témoins déclarant le décès auraient-ils vu quelque chose se passer ? Nous ne le saurons jamais. Mais on voit bien à travers cet exemple que la frontière entre infanticide et la notion d'enfant mort-né est ténue. Marie Deschamps est déclarée dans le registre d'écrou comme étant journalière. Elle travaille donc à la journée. Elle mesure 1m56, les cheveux châtains, tout comme ses yeux, et son teint est coloré. Elle est condamnée par le tribunal correctionnel de Loches le 17 février 1855 à 1 an de prison, en vertu de l'article 319 du Code pénal. Elle commence à purger sa peine le 17 février 1855 et sortira le 17 février 1856. Pour Loches, il semblerait que les infanticides ne soient pas très nombreux. En effet, d'après nos travaux de compilation de chaque femme détenue, entre 1809 et 1889, il n'y aurait eu que 7 femmes incarcérées pour infanticide, 4 étaient journalières et 3 domestiques. Si le sang fait les gros titres, le quotidien des tribunaux correctionnels, c'est le vol. Et ici, la justice est une justice de classe. Pour une domestique, voler un drap, une cuillère en argent ou de la nourriture à ses maîtres est un crime qualifié, passible de plusieurs années de prison. Pourquoi une telle sévérité ? Parce qu'il s'agit d'un abus de confiance, au cœur de la famille. Le Code pénal de 1810 transforme le vol domestique en un crime qualifié. L'article 386 sanctionne le vol commis par un domestique de 5 à 10 ans de réclusion. La loi ne punit donc pas seulement la valeur de l'objet, mais surtout l'abus de confiance commis au sein de la famille, la cellule sacrée de la société de cette époque. Prenons l'exemple d'Eugénie Bruneau, dont le graffiti est visible dans l'escalier menant au quartier des femmes. Eugénie Braillon est née en 1882 à Loches. En 1901, elle épouse Auguste Bruneau à Fléré-la-Rivière. Ils auront ensemble une fille, Renée Maria, née en 1913. Eugénie est incarcérée à Loches à partir du 30 avril 1912 pour vol. Il n'est pas précisé ce qu'elle a volé. En revanche, l'Union libérale, journal d'Indre-et-Loire, rapporte l'audience du 23 mai 1912 et nous dit que le complice, un journalier de 39 ans, est condamné à 4 mois de prison. L'autre complice, une femme de 30 ans, écope de 15 jours de prison. Eugénie, elle, écope de 6 mois de prison, soit plus que les autres. Malgré nos recherches, nous ne savons pas pourquoi Eugénie est condamnée à 6 mois de prison. Avait-elle des antécédents ? Ou peut-être était-elle employée là où le vol a été commis ? Eugénie Bruneau débutera sa peine le 1er mai 1912 et sera libérée le 1er septembre. Elle est libérée par anticipation, car d'après la loi du 5 juin 1875, il faut réduire la promiscuité dans les prisons de courte peine pour limiter les risques de récidive et la contagion morale. Les courtes peines sont donc souvent libérées avant la date prévue. Entre 1809 et 1889, nous répertorions à Loches environ 200 femmes condamnées pour vol. Ces vols prennent plusieurs formes. Il s'agit de vols de récolte, de fruits, intervient alors pour ce type de vol la notion de détacher du sol ou non, le vol à la tire, le vol de volaille, le vol de bois, le vol de nuit, le vol de chevreau, ou encore le vol avec fausse clé. C'est le cas de Marie Moreau, lingère de 28 ans, qui apparaît sur le registre d'écrou à la date du 20 juillet 1813 et qui est condamnée à 5 ans de travaux forcés. Elle sera transférée le 20 août 1814 à la prison de Fontevraud, qui a ouvert ses portes le 3 août de la même année. Marie Moreau passe un an dans la prison départementale de Loches, comme le prévoit la loi, car elle est condamnée à 5 ans de travaux forcés. Les personnes condamnées à 10 ans devront, eux, passer 2 ans d'emprisonnement cellulaire, comme il est dit dans le Code pénal de 1810. Les travaux forcés sont prévus dans le Code pénal de 1810, au chapitre 1er des peines en matière criminelle.
Article 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles. Ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra. Article 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.
Cette peine, subie d'abord dans les bagnes métropolitains, l'est à partir de 1852 dans les bagnes coloniaux, la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie. Le décret-loi du 17 juin 1938 supprime la transportation en Guyane. Les derniers forçats quittèrent la Guyane pour les maisons centrales en France en 1953. La peine des travaux forcés est abolie en France par l'ordonnance du 4 juin 1960. Parmi toutes les femmes passées par la prison départementale de Loches, peu sont condamnées à de lourdes peines. Ce n'est pas le cas d'Anne Métivier, qui fut condamnée à mort et exécutée en place publique. Anne Métivier est née le 5 janvier 1788 à Loches. Elle épouse le 9 janvier 1810 Sylvestre Couratin. Le couple réside à Beaulieu-les-Loches. Anne Métivier apparaît sur le registre d'écrou 2Y108 en compagnie d'un homme, Vincent Mercier. Tous les deux sont condamnés le 10 août 1815 par la cour d'assises de Tours à être exécutés en place publique à Loches. Quel est leur crime ? D'après la Gazette de France, datée du 2 novembre 1815, Anne Métivier, avec la complicité de Vincent Mercier, a empoisonné son mari et l'a tué. Anne Métivier s'est pourvue en cassation et la séance se tenant à Blois est relatée dans la Gazette. Voici ce qui est dit. L'ouverture du cadavre du sieur Couratin ne laisse aucun doute sur le genre de sa mort. Le procès verbal des médecins constate que le liquide trouvé dans l'estomac du mort est de l'oxyde blanc d'arsenic et que l'effet de ce poison si actif lui a donné la mort. Le juge d'instruction trouva chez Anne Métivier 3 petits pots dans lesquels on trouva des traces d'arsenic. L'accusée reconnut les avoir utilisés pour donner à boire à son mari. La femme Couratin a constamment nié qu'elle eût mis de l'arsenic dans les pots. Lorsque l'on apprit à l'accusée qu'il s'agissait d'arsenic, elle s'écria tout à coup « De l'arsenic ? De l'arsenic ?» Et lorsqu'on lui demanda si elle avait un complice, elle désigna vivement Mercier, boulanger à Loches, en s'écriant « Ah, le monstre, c'est lui qui m'a perdu !» Elle a ajouté que dans l'espoir de l'épouser, il lui fit confidence de son projet et de son exécution. La déclaration de Vincent Mercier est accablante pour Anne Métivier. Il déclare que ce n'est qu'à ses présentes sollicitations qu'il fit le voyage de Tours pour aller chercher de l'arsenic, que l'apothicaire de Loches avait refusé de lui vendre sans l'autorisation du maire. Après ce refus, il était retourné voir Anne Métivier. Celle-ci le gronda, le caressa et lui promit de se livrer à lui. Anne Métivier est présentée dans l'article comme séductrice et comme ayant même proposé d'étouffer son mari. Tout la désigne comme coupable aux yeux des jurés, qui l'ont donc déclarée coupable tout comme Vincent Mercier. Ce que montre ce crime, c'est le traitement de la presse. Comme d'habitude, les journalistes appuient sur les caractéristiques de la femme. Ici, elles ne sont pas physiques, mais morales. Anne Métivier tue son mari pour être avec son amant. C'est donc très certainement une femme sans morale qui se livre à la débauche. Au XIXe siècle, l'empoisonnement occupe une place singulière dans l'imaginaire criminel. Bien que statistiquement rare, il est perçu par les contemporains comme le crime féminin par excellence, souvent qualifié d'arme des faibles et des sournois. Il faut dire que la presse se délecte de ces affaires. Le code pénal de 1810 est d'une sévérité extrême envers les empoisonneurs. L'article 302 assimile l'empoisonnement à l'assassinat ou au parricide, le punissant de la peine capitale. La loi punit tout fait d'attenter à la vie d'autrui par l'administration de substances de nature à entraîner la mort, indépendamment des quantités utilisées. Le poison est intimement lié au rôle social de la femme de l'époque confinée au foyer. Prenons l'exemple de l'arsenic, comme dans notre affaire Métivier-Mercier. Sous forme de morora, c'est une substance inodore, sans saveur et qui se trouve facilement dans les cuisines pour lutter contre les nuisibles. Ce crime, parfois commis par les femmes, est perçu comme une inversion monstrueuse du rôle de la mère ou de l'épouse. La femme qui cuisine des soupes, prépare des tisanes, devient l'empoisonneuse insoupçonnable. En dehors de Loche, deux affaires ont particulièrement marqué les esprits et nourri la psychose collective envers ces femmes vénéneuses. Tout d'abord, l'affaire Hélène Jégado en 1852. Cette servante bretonne est accusée d'avoir tué entre 25 et 60 personnes à l'arsenic pendant 18 ans. Elle fut guillotinée à Rennes en 1852. L'auteur Jean Tellet sortit en 2013 un livre qui lui est consacré et qui s'intitule « Fleur de tonnerre ». Puis l'affaire Marie Lafarge en 1840. Femme de la haute société, elle est accusée d'avoir tué son mari. Son procès fut le théâtre d'une bataille d'experts scientifiques sur la détection de l'arsenic. Sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité divisa l'opinion publique entre ceux qui voyaient en elle un monstre et ceux qui criaient à l'erreur judiciaire. Voilà, donc là on se trouve sur la terrasse, alors ce qu'on appelle la terrasse du quartier des femmes. En réalité, à l'origine, il s'agit donc plutôt de la chemise de la fin du XIe siècle. Cet espace-là a été épaissi sous Charles VII, puisque la chemise en fait du XIe siècle entoure le donjon. Le quartier des femmes se situe dans ce qu'on appelle la tour-porte, également le châtelet d'entrée, qui est un élément défensif, construit lui aussi sous Charles VII, et ce quartier des femmes, cette pièce, en tout cas, était probablement destinée à l'origine à être un espace de surveillance situé au-dessus donc du pont-levis.
T'as l'air à souffler.
Monter les marches et parler dans la foule, c'est pas possible. Donc encore une série de marches. Voilà, donc là nous sommes directement dans le quartier des femmes. Donc, il s'agit d'une pièce unique qui mesure environ 50 mètres carrés en comprenant donc des latrines, puisqu'il y a des latrines dans un coin, et également l'ouverture devant la fenêtre, puisque cette fenêtre en fait présente des coussièges de chaque côté, mais également donc un baraudage. Pour rappel, le baraudage, donc, il s'agit d'un système de mise à distance placé à l'intérieur devant les fenêtres pour éviter que les détenus n'aillent communiquer donc, avec l'extérieur. Donc, c'est quelque chose que l'on voit alors, dans le quartier des femmes, mais pas que, puisqu'on le voit également un peu partout donc, dans les cachots donc, du donjon. Cet espace présente également une grande cheminée, mais qui ne devait pas forcément être fonctionnel au moment de l'occupation donc, de la prison départementale de cet espace. Donc, parce que, on le sait hein, par les archives, qu'on chauffe les cachots, mais seulement en cas de grand froid. Donc à voir si cette cheminée a bien servi hein, du temps de l'utilisation par la prison et avec les femmes. Évidemment, nous avons une porte de prison qui ne s'ouvre que par l'extérieur, qui présente donc un judas et un système de fermeture donc avec une serrure mais également une sorte de crochet pour maintenir la sécurité. Donc on sait que les femmes avaient accès à leur cour, donc qui était ce qu'on appelle nous la terrasse aujourd'hui, donc à leur cour avec ce cachot dans lequel elles étaient toutes installées. Donc c'est difficile de savoir exactement combien de femmes il pouvait y avoir en même temps, même si on a essayé de mener des recensements un peu systématiques sur certaines périodes, mais voilà, il faut imaginer qu'on n'avait pas non plus des dizaines de détenus en même temps. Elles étaient installées donc dans des lits à châssis pour la plupart et étaient placées pour certaines ainsi avec leurs enfants, puisqu'on a un petit texte qui se trouve derrière la porte, un petit texte écrit crayon à papier, qui explique qu'en 1926, on a une femme qui est placée là avec ses trois enfants, dont un bébé de quelques mois. Alors, concernant les graffitis, donc il y a beaucoup de graffitis ici, bien évidemment, comme un peu partout, hein, dans tous les cachots du donjon de Loche, mais des graffitis de différentes périodes. Donc, certains qui sont assez anciens. On a un magnifique God Save the King à un moment donné, donc là qui fait plutôt référence à l'utilisation donc, de cet espace pour probablement mettre des détenus anglais pendant la guerre d'indépendance américaine. D'autres graffitis également qui là sont plutôt attribués à des femmes donc, qui se trouvent dans l'escalier donc, qui permet depuis la chapelle d'avoir accès au quartier des femmes. Donc on parlait d'Eugénie Bruno hein, dans cet épisode. Le graffiti d'Eugénie Bruno se trouve dans cet escalier là, tout comme celui de Maria Girard donc, qui fera elle l'objet d'un épisode vraiment à part puisqu'il sera consacré donc, à ce qu'on appelle les Apaches Lochois. On est en 1907 et c'est un gang qui sévit donc dans le sud Touraine. D'autres graffitis également, non identifiés pour le moment. On espère qu'on trouvera les autrices. Mais voilà, il faut imaginer que là encore, dans cet espace-là, les femmes ont pu s'exprimer à travers donc, la réalisation de graffitis.
Est-ce qu'on peut dire que l'espace dans lequel on est, il est... on va dire confortable par rapport aux prisons du 19e siècle, sachant qu'on a quand même une cheminée, même si tu disais qu'elle servait peu.
Alors, la pièce est grande, il y a de la lumière. Je ne sais pas au niveau des fenêtres ce que ça pouvait donner à cette époque-là. La cheminée, effectivement, est assez grande aussi. On peut imaginer qu'il n'y a peut-être pas forcément de courant d'air, en tout cas moins de courant d'air que dans le cachot réservé aux hommes qui se trouve, lui, dans la tourneuve. Par contre, il y a quand même un point négatif, c'est l'eau, puisque l'eau, il faut aller la chercher tout en bas dans la cour.
Il n'y a pas d'accès à l'eau, effectivement.
Non. Et ça, pour le coup, ça veut dire que... Alors, de toute façon, ça fait partie des règles quotidiennes que les femmes et les hommes détenus doivent avoir. Mais pour les femmes, ça rajoute cette chose en plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment descendre. On n'est pas au plus haut, hein. On est en tout cas le niveau le plus haut dans la tour-porte, au-dessus de la porte d'entrée. Mais voilà, il faut descendre dans la chapelle, puis descendre dans la cour, aller chercher l'eau et la remonter. Donc ça, je pense que ce n'est pas forcément la partie la plus, à dire, au niveau confort. Par contre, oui, donc il y a a priori des latrines qui se situent dans un coin de la pièce. On dit a priori hein, parce que voilà, c'est un espace de retrait, ça, il n'y a aucun problème, et qui se situe très probablement au-dessus d'autres latrines dans le cachot qu'on appelle aujourd'hui le cachot de la cage, donc qui présente une reconstitution de la cage de fer. Voilà, donc après, en termes de confort, bon, c'est tout à fait sommaire, bien sûr. On voit dans la partie basse, je n'en ai pas encore parlé, mais on voit encore des traces de goudron, là, de ce revêtement qu'on va mettre sur les murs, qui permet de lessiver le sol, mais de lessiver aussi le bas des murs, et qui permet d'avoir quelque chose, voilà, justement, d'un peu plus hygiénique. On fait très attention, et on l'a dit, hein, à l'hygiène dans la prison départementale, et ça passe aussi par le lessivage des sols et de la partie basse des murs.
Qui faisait le ménage ? Les femmes elles-mêmes ?
Les détenus eux-mêmes entretenaient leur cachot. Ouais. Hommes et femmes confondus. Bon, pour terminer là sur cet espace-là, il faut quand même imaginer que la terrasse... Bah, c'est une sorte de grand couloir, en fait, entouré donc de hauts murs, puisque, a priori, hein, quand même, ça fait. C'est un espace de surveillance, à la base. Donc, les femmes qui se promenaient ici n'avaient pas la possibilité de voir l'horizon. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vue. Alors, moi, je ne suis pas très grande, je fais 1m60, mais voilà, je ne vois pas beaucoup l'horizon.
Je ne vois pas le décor. Moi, qui fais 1m80, je le vois à peine, hein, pour être honnête, ouais. C'est un petit peu difficile.
Donc, on a vu sur une partie de la Tourneuve, on a vu sur le toit du logis du gouverneur, qui est notre bâtiment d'accueil actuellement. On a vu évidemment sur le donjon, bien sûr, qui est juste à côté. Mais c'est vrai que c'est assez limité en termes de perspective, quoi. On n'a pas trop de vues. Mais il faut quand même imaginer que ces femmes devaient profiter de cet espace-là qui d'être quand même un espace, voilà, assez, enfin, quand il fait très chaud ici, il fait vraiment très chaud, ouais, hein, ça tape.
On est vraiment plein soleil, on est entouré de pierres blanches de tuffeau, donc ça doit quand même cogner assez fort.
Ouais, ça tape fort ici, et c'est vrai que bon, voilà, cet espace-là devait être un peu un espace quand même. Enfin, je sais pas, pour souffler, hein, peut-être un petit peu dans ce quotidien. Alors, attention, hein, je ne parle pas de transat, de quelque chose comme ça, de détente. Mais voilà, je pense que ça devait être aussi un espace déjà à part. Si on a des problèmes, par exemple, avec des hommes qui sont bruyants, qui sont agressifs, etc., on est relativement à l'abri, ou en tout cas, on est à l'écart. Donc, on ne risque pas d'entendre s'il y a des cris qui viennent, par exemple, du cachot des hommes. En fait, on ne les entend pas, puisqu'on est vraiment à l'écart. Donc, mais ça n'empêchera pas qu'à certaines périodes, et notamment, on a quand même une affaire que l'on va traiter là encore, sur un épisode en particulier, qui est l'affaire de Catherine Bonin, où on verra que finalement, cette communication entre le quartier des femmes, La Chapelle, et le quartier des hommes, en tout cas la Tourneuve, peut poser problème à certains moments. Je ne rentre pas trop dans les détails.
Est-ce qu'on sait si les hommes et les femmes, ils se croisent quand même dans la journée, dans l'ensemble de la prison ?
Alors, techniquement, les prévenus et les condamnés ne sont pas censés se croiser. Mais voilà, ça c'est techniquement. On n'a pas 50 espaces pour les mettre, en fait, ces gens-là. Donc, il est possible que des hommes et des femmes se croisent. Justement, dans l'affaire Bonin, on sait que Catherine Bonin croise un homme en particulier. Divulgage pas tout.
On ne dit pas tout.
Je ne divulgage pas. Mais on sait qu'effectivement, Catherine Bonin voit un homme en particulier. Donc, ils peuvent se croiser. Ils peuvent se croiser. Et on parlait du puits et de l'eau tout à l'heure. Finalement, ça fait vraiment partie du quotidien, on l'a dit. Et c'est justement à cette occasion-là que Catherine rencontrera cette personne-là.
Mais d'une manière générale, on part du principe qu'ils ne sont pas censés se croiser, même si probablement ça arrivait quand même.
Ouais, alors peut-être, enfin sûrement de toute façon, ils se croisent au moment des offices, des messes, etc. Parce que sur les plans de la chapelle que nous avons, on sait qu'il y a une partie de la chapelle qui est réservée aux hommes, une partie de la chapelle qui est réservée aux femmes. Donc ils doivent très probablement se croiser à cette occasion-là.
Les repas,
je ne suis même pas sûre. Je pense que chacun les prend un peu dans son coin. Les femmes probablement, ici, on sait qu'il y a un chauffoir également qui se trouve au niveau de la tour du Martelé, premier niveau. Mais là encore, ça reste à confirmer. Hein. Malheureusement, on n'a pas encore eu le temps d'éplucher toutes les archives. Ce voyage à travers les archives judiciaires du 19e siècle nous montre que la justice pénale des femmes n'a jamais été une simple affaire de maintien de l'ordre. Elle fut avant tout un puissant instrument de contrôle moral et social. Juger une femme à cette époque, c'est d'abord juger sa conformité au modèle de l'épouse dévouée ou de la mère aimante. Le tribunal devenait alors le théâtre d'une étrange mise en scène. On y voyait soit une victime éplorée de sa propre fragilité biologique, que les jurés s'empressaient d'acquitter par galanterie, soit un monstre dénaturé qu'il fallait extraire du corps social, parfois par l'exil colonial. Derrière chaque infanticide, chaque vol de linge, chaque soupçon de poison, se cachent des vies de servitude, de stratégies de survie et des révoltes silencieuses face à une autorité patriarcale absolue. Si les femmes résistaient statistiquement au crime, c'est peut-être aussi parce que la société avait organisé leur invisibilisation, préférant les murs épais des couvents aux bancs des tribunaux. Le 19e siècle s'achève sur la médicalisation de la déviance, transformant la coupable en hystérique, mais le mécanisme de fond reste le même, refuser à la femme une pleine souveraineté sur ses actes. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons du personnel de la prison départementale, les gardiens. Nous verrons qui ils sont, quel est leur parcours personnel et professionnel, et nous vous présenterons quelques gardiens qui ont travaillé à l'OCH. À très vite, dans le prochain épisode de Mémoire derrière les murs.